Leader et Manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et Manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management.
Voilà, merci d'être là et surtout à l'écoute de la fréquence maternelle. Nous sommes en direct pour les comptes de cette émission Leader et Manager. Le thème a été dévoilé, voire même l'invité. On est avec lui au plateau. Professeur Simo Kidiamboko, docteur ingénieur en sciences appliquées et professeur d'université. C'est avec lui que nous allons parler de l'intelligence artificielle et défis et opportunités. Professeur, comment allez-vous?
Bien, papa, la grâce de Dieu, vous-même.
Oui, ça va bien. Vous êtes aussi responsable de mouvement des professeurs, du mouvement des professeurs.
Exact.
Voilà, ça se porte bien, les mouvements des professeurs.
Ben, comme tous les mouvements, il y a toujours des hauts et des bas. Hein. Mm-hmm. Mais bon, ça va.
Parce que l'autre fois, il y avait une activité organisée et les cardinals étaient invités pour présider cette Eucharistie.
Effectivement, c'est l'occasion pour nous de dire sous les ondes, présenter nos remerciements à son éminence, mm-hmm. qui avait vraiment disponibilisé de son temps pour nous accompagner dans la messe d'ouverture de cette activité-là. Et c'était l'Assemblée générale, la deuxième et dernière Assemblée générale de l'année 2025 du mouvement des professeurs catholiques. Précisément, c'était le 29 novembre 2025.
Très bien, vous êtes une crème à ne pas négliger. Alors, nous allons parler de l'intelligence artificielle, défis et opportunités. Je vous laisse d'abord le temps de nous parler de cette intelligence artificielle, défis et opportunités. Et juste après votre exposé, nous allons communiquer déjà le numéro et nous allons associer les auditeurs au moment opportun au 081-99-66-098. 081-99-66-098. Vous avez encore la parole.
Merci, mon frère, pour cette opportunité que vous m'offrez ce jour que parler de l'intelligence artificielle. D'aucuns croient que cette technologie ou discipline est récente, parce qu'effectivement, dans notre environnement, il n'y a pas très longtemps que l'on a commencé à en parler. Mais en réalité, c'est une discipline qui date déjà de la création du monde. Si nous suivons les Écritures saintes, voyons l'évolution de l'être humain depuis la création jusqu'à ce jour, nous allons constater que l'être humain est au centre de cette discipline, l'intelligence artificielle. Dans Genèse, nous savons que quand Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve, finalement l'homme, Adam puis Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden où ils avaient tout. Mais après le péché originel, Dieu a dit à l'homme, « Désormais, tu mangeras à la sueur de ton front. » Une parenthèse, l'être humain, ça, c'est tout le monde le sait, n'aime pas dépenser trop de son énergie. Mais dès que l'homme a été puni de cette manière, il a commencé à travailler. Et en travaillant, s'est rendu compte qu'il était en train de dépenser de l'énergie. La sueur, elle vient de la dépense de l'énergie. Et donc, il a commencé à chercher des mécanismes pour dépenser moins d'énergie. Les exemples sont légion. Pour ce qui est du transport, par exemple, l'être humain qui marchait à pied a trouvé un mécanisme pour utiliser un cheval, créer une cabine avec très peu d'énergie, taper avec un petit bâton sur le cheval et le cheval avançait et lui, il était dans sa cabine et donc il ne dépensait plus de l'énergie en marchant à pied. Ça, c'est pour le transport terrestre. Transport maritime, c'est pareil. Nager, c'est des efforts. Les épaules, les consorts, les bras et même les jambes. Et il s'est dit, écoutez, il faut créer une pirogue. Il a créé une pirogue, mais là aussi, il fallait ramer, toujours dépense d'énergie. Et puis finalement, il a pensé à des petites unités à voile. Et là, il n'avait qu'à réajuster le voile pour redresser le navire dans la direction de où il veut aller. Et finalement, c'est la découverte de la machine à vapeur et l'électricité s'en est suivie. Tout ça, pour l'être humain, il fallait dépenser moins d'énergie. Et donc, tous ces équipements, ces instruments permettaient à l'être humain de dépenser moins d'énergie. Et ça, c'est la pensée. Parce que Dieu a créé l'homme, il a soufflé et donc il l'a animé. Et donc, c'est une intelligence qu'il lui avait donnée. Et il a utilisé cette intelligence pour se mettre à l'aise. Et ça ne s'est pas arrêté là. J'étais arrivé au niveau de l'électricité qui a été découverte dans l'intention de augmenter les performances de toutes ces unités que l'être humain mettait au point. Et puis, pour ce qui est des calculs, par exemple, plutôt que de continuer à faire des calculs mentaux, eh ben, qu'est-ce que l'être humain fait? Nous sommes au XVIIIe siècle, avec Blaise Pascal, dont le papa était commerçant. Je pense que ceux qui suivent l'histoire des sciences le savent. Blaise Pascal monte une petite machine tout à fait mécanique pour aider son papa à faire des calculs, l'addition, la soustraction. Et cette machine, qu'on appelle la Pascaline, a été récupérée par d'autres scientifiques jusqu'à l'automatiser. L'automatiser parce que l'électricité était déjà au point. Et les recherches ne se sont pas arrêtées là. Il y a par exemple John von Neumann qui, observant cette machine, a dit bah, écoutez, il a proposé une architecture qui ferait que cette machine à calculer, le calculateur, que les anglophones continuent à appeler computer, parce que computer signifie machine à calculer, tout compute calculé. Et John von Neumann a proposé cette architecture et les autres scientifiques ont récupéré. Et pendant la même période, les recherches ont continué pour essayer de satisfaire à l'architecture de von Neumann où il fallait des unités de stockage, il fallait une unité arithmétique et la partie logique qui s'est ajoutée, et puis les entrées-sorties, et ainsi de suite. Et donc, je disais que les recherches ont continué, par l'être humain toujours, à la recherche des facilités, jusqu'à ce qu'on a eu des bascules, les circuits logiques en général, dont la combinaison donnait des composants qui pouvaient permettre non seulement les calculs, et les calculs, oui, unité arithmétique et logique, même la partie logique également intégrée. Et voilà. Sont nées des unités de stockage, comme je disais tout à l'heure, et des calculs et autres. Alors, cette machine, qui devenait de plus en plus performante, mais encombrante, l'être humain ne s'est pas arrêté là. Il a pensé qu'il fallait, pour accompagner l'automatisation, pour accompagner les performances, trouver d'autres composants. Et là, nous sommes à l'ère de ce qu'on appelle en électronique les tubes à vide. Les tubes à vide pour le redressement du courant, les tubes à vide, donc les diodes comme on les appelle à vide, et les transistors pour amplifier des signaux, parce qu'en ce moment-là, également, la téléphonie est mise au point. Et il fallait amplifier le niveau des signaux qui étaient transmis. Et malheureusement, les tubes à vide n'ont pas donné satisfaction parce que les calculateurs de cette époque-là qui ont utilisé ces tubes à vide, eh bien, c'était des unités qui pouvaient remplir une salle de pas moins de 100 mètres cubes. Et ce sont des composants qui chauffaient. Donc, à l'encombrement, il fallait ajouter également le chauffage. Et donc, il fallait des ventilateurs pour refroidir les machines en question, et ainsi de suite. Bon, alors, face à cet inconvénient, ou à ces inconvénients, ben, l'être humain a continué à chercher jusqu'à découvrir les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs qui ont permis de miniaturiser les composants et également les calculateurs en question. Et donc, à partir de ce moment-là, bon, les calculateurs sont devenus performants et la vitesse des calculs a augmenté. Et un groupe de chercheurs à Dartmouth Institute s'est réuni. Là, nous sommes maintenant en 1956, où il y avait John McCarthy, Alan Turing et autres, qui se sont posé la question de savoir ces calculateurs, dont la vitesse des calculs dépasse celle des hommes, vont-ils commencer à penser un jour ? Parce que nous savons que l'être humain, les choses ne sont pas mécaniques et donc il pense, il réfléchit à tout ce qu'il fait. Alors ils se sont posé la question, mais est-ce que ces machines vont commencer à penser un jour comme les êtres humains? Et c'est Alan Turing qui va monter un test qu'on appelle test de Turing. Dans la littérature, on peut encore retrouver ça, et même sur le net d'ailleurs, le test de Turing. Le test de Turing a démontré qu'une machine peut battre un être humain. Mais pour battre un être humain, il faut être également humain. Ça signifie que, bon, dans un jeu, par exemple, l'être humain, les stratégies, il les montre en réfléchissant. Mais comment une machine peut-elle battre un être humain si elle ne réfléchit pas? Bon, bref, le test préliminaire était celui-là. Turing a monté ce test et puis on a vu que dans certains... En fait, ça consistait en quoi? Un être humain dans un local, une machine dans un autre, et une troisième personne qui pose des questions à ces deux entités. Et on a constaté que pour certaines questions, la machine battait l'être humain. Alors là, c'était devenu intéressant. C'est comme ça que ses collègues, le collègue d'Alan Turing, John McCarthy et autres, se sont dit, ben, nous allons faire de cette recherche, cette discipline, un domaine de recherche, un vrai domaine de recherche. Et c'est Alan Turing, en ce moment-là, 1956, qui va proposer, il dit, bah, écoutez, nous donnons à cette discipline, ce domaine de recherche, le nom de intelligence artificielle. 1956. Et à partir de ce moment-là, les recherches ont continué et jusque là où nous en sommes aujourd'hui. Et en passant, peut-être qu'on y reviendra, les tests ont continué. À part le test d'Alan Turing de 1956, en 1997, avec les calculateurs, cette fois-ci c'est IBM qui a monté un super calculateur qu'on avait baptisé Deep Blue, et qui était spécialisé dans le jeu d'échecs. On a mis en compétition Kasparov, qui était le champion du monde de cette époque-là du jeu d'échecs, et Deep Blue a battu Kasparov. Alors là, c'était devenu intéressant. Mais avant cela, déjà vers les années 40, un groupe de chercheurs a réfléchi sur comment est-ce que l'être humain fonctionnait. Il a découvert que l'être humain, à part la musculature, enfin, les muscles, les os et tout ce que nous voyons, au-dedans de lui a des réseaux, des nerfs qui étaient interconnectés. Et ces nerfs, ce sont les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, comment ils fonctionnent? Ils communiquent, ils sont en contact avec tous les sens que nous connaissons. Bon, à l'école primaire, on nous a dit qu'il y a les cinq sens, la vue, l'odorat, et ainsi de suite, le toucher. Et la partie intelligente pour l'être humain, c'est le cerveau. Et donc, ces réseaux de neurones prennent les informations des sens. Lorsque nous regardons, lorsque nous entendons, ce sont des informations qui sont captées par les sens que nous appelons en technique des capteurs et qui les amènent au niveau du cerveau qui est un calculateur par excellence qui fait des calculs et qui renvoie les instructions, les commandes. Et c'est comme ça que les organes qui sont chargés d'exécuter les commandes qui viennent du cerveau passent à l'opération. Quand nous entendons un boum quelque part, ben écoutez, tout le monde regarde et puis le cerveau fait des calculs et selon la priorité, ben ce sont des instructions, une commande qui est donnée et voilà. Et là, de là où on est, ben on se lève et puis on court. Voilà. Donc là, c'est la réponse, disons l'exécution de la réponse qui vient du cerveau. Donc vers les années 40, je disais, cette recherche a été faite sur les réseaux de neurones et financée évidemment. Mais ce qui s'est passé, c'est que le financement avait été arrêté parce que les gens ne voyaient pas beaucoup d'intérêt là-dessus. Et on a atteint ce qu'on a appelé l'hiver de l'intelligence artificielle. L'hiver de la recherche sur les réseaux de neurones. Mais en sourdine, les chercheurs ont continué à travailler là-dessus. C'est comme ça que, beaucoup plus tard, je pense vers les années 90, ceux qui surveillaient ces recherches-là se sont rendus compte que c'était quand même intéressant et ils ont relancer les financements. Et les recherches ont continué jusqu'à ces jours. Et ces recherches qui ont donné lieu à ce que nous appelons aujourd'hui, qui ont permis plutôt de mettre au point ce que nous appelons aujourd'hui le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage automatique. Donc, apprendre à une machine à exécuter des tâches telles que l'homme le veut. Machine learning qui évolue vers le deep learning. Alors, je parlais en 1997 du supercalculateur d'IBM, Deep Blue, qui avait battu Kasparov dans les jeux d'échecs. Mais plus récemment, il y a 10 ans, en 2016, c'est le tour de Google avec son langage de programmation Go et des algorithmes montés sur cette base. Un algorithme qui s'appelle AlphaGo a battu le champion du monde de l'époque dans le jeu de Go, 2016, Lee. C'était un japonais, si je ne me trompe pas. Et là, ça a réveillé véritablement l'attention de tout le monde pour dire, ben, effectivement, c'est qu'en 1956, Alan Turing avait démontré qu'une machine pouvait battre un être humain, devient réalité. Et donc, des recherches en intelligence artificielle se sont accrues, continuent jusqu'à ces jours où nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui, des machines qui exécutent des tâches à la place des êtres humains, des logiciels qui permettent de faire des calculs rapidement, des logiciels qui permettent de prendre des décisions logiques, et ainsi de suite. Ça, c'est la petite histoire de l'intelligence artificielle. Si des gens croient que c'est une nouvelle discipline, mais je viens là de montrer que c'est l'être humain qui est au centre de tout ça, ne voulant pas dépenser trop de son énergie à la suite de la punition qu'il avait reçue de Dieu, et s'est mis à réfléchir jusqu'à monter des équipements qui lui facilitent la tâche. Je pense que pour la partie historique, je peux m'arrêter là. S'il y a d'autres questions, on pourra y revenir. Alors, l'émission parle des opportunités et défis.
Rapidement, parce qu'on avance déjà.
On avance déjà.
Bientôt, on va associer les auditeurs.
OK. Alors, si vous le permettez, je préfère commencer d'abord par les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, par définition, je pense que je n'ai pas dit ça, c'est ce domaine de recherche qui permet de modéliser et de monter, réaliser des machines qui exécutent des tâches à la place de l'être humain. des tâches, bien sûr, qui sont définies par l'être humain. Là où l'être humain trouve que c'est fatigant, ça consomme trop d'énergie, eh bien, il remplace par une machine. Et donc, les opportunités sont multiples. Si nous allons à l'industrie, nous voyons ce qu'on appelle les robots aujourd'hui qui font les tâches répétitives et qui autrefois ont été exécutées par des êtres humains. Je prends un exemple simple. Dans une industrie où il faut mettre des étiquettes sur des cartons, une industrie où il faut mettre des bouchons sur des boissons fabriquées, une industrie où il faut déplacer des cartons, ainsi de suite, ce sont des tâches répétitives. Aujourd'hui, ce sont des robots, des bras robotiques qui font ce travail. Et en médecine également, nous voyons les prouesses au niveau de diagnostic médical, même jusque d'ailleurs à la proposition des posologies, ce qu'il faut donner aux patients dans tel ou tel autre cas. Bon, l'être humain demeure toujours au centre, mais l'intelligence artificielle est en train d'aider les soignants, les médecins, à diagnostiquer un peu plus précisément et à proposer une thérapie également un peu plus précise. En agriculture, c'est pareil. L'être humain a commencé par labourer par la main, planter, ainsi de suite. Mais la surveillance, aujourd'hui, nous avons des équipements qui permettent ce que l'on appelle à ce jour l'agriculture intelligente. Quand on parle d'agriculture intelligente, ça signifie que plutôt que de surveiller l'évolution des plantes de façon visuelle, nous, aujourd'hui il y a des capteurs qui prélèvent de façon continue les paramètres vitaux des plantes et tout ce qu'on trouve dans les jardins, dans les champs et consorts, et qui donnent des alertes pour dire, écoutez, là, il faut arroser avec telle quantité d'eau, ainsi de suite. C'est ce que l'homme faisait avec l'arrosoir sans trop de précision. Donc là, nous sommes dans ce qu'on appelle l'agriculture intelligente. Et toujours dans ces domaines, on parle aujourd'hui de l'Internet et des objets. L'Internet et des objets, c'est-à-dire que bon, les objets, ce sont justement ce que j'ai appelé tout à l'heure les capteurs et les actionneurs, effecteurs, qui, interconnectés, permettent un confort. Et on parle de la domotique aujourd'hui, la maison intelligente, la cité intelligente, la voiture intelligente, ainsi de suite, le drone intelligent et tout ça. Ça, c'est le résultat de l'évolution de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'Internet des objets. Les opportunités, il y en a vraiment beaucoup. La libération de l'être humain des tâches répétitives et un milieu hostile, ça, je pense que je venais d'en parler. Et bon, s'il y a des questions, nous pourrons y revenir avec peut-être un peu plus de détails. Alors, les défis, il y en a également plusieurs. Comme toute nouvelle technologie qui voit le jour, il y a toujours au centre l'être humain. Et donc, il s'agit là de l'acceptation de la technologie par la communauté. Si la communauté accepte la technologie, elle s'y met. Mais quand elle refuse, quel que soit ce que vous allez proposer, ça sera des essais-erreurs, comme on dit. Donc l'acceptation de la technologie par la communauté. Il y a également le bon usage de cette technologie. Alors quand je parle de bon usage ici, il faut instruire les gens à utiliser correctement, parce qu'il peut y avoir des abus. Les abus, aujourd'hui, là, par exemple, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation, eh bien, nous voyons comment les acteurs dans ce domaine de l'éducation abusent avec des logiciels comme ChatGPT, comme DeepSeek et d'autres, Ou, par exemple, des étudiants, il suffit de mettre le thème dans un logiciel comme ça. Il vous produit un livre, il vous produit un mémoire. Et quand les gens ne sont pas avisés, ben, ils font du copier-coller sans voir. Parce que tout ce qui est dit là-dedans n'est pas nécessairement vérité. Parce que même il y a des citations qui sont inventées par ces logiciels. Et donc, il faut repasser le texte pour voir la cohérence avec la recherche qu'on est en train de mener et la véracité des citations des chercheurs qui sont déjà passés par là. Parce que si on y va aveuglement, la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est que les gens ne vont plus réfléchir. Et en biologie, on dit qu'un organe qui n'est plus utilisé, bon, il finit par s'atrophier. Et donc... le cerveau de ceux qui utilisent de façon abusive l'intelligence artificielle, les cerveaux vont s'atrophier et donc le comportement sera le même que celui de ceux qui s'adonnent à la consommation des boissons alcooliques fortes. On le voit, les jeunes gens, quand ils ont pris ce genre de boissons, on voit comment ils deviennent dingues. Et donc, la crainte dans l'usage de l'intelligence artificielle, c'est également cela. Ensuite, il y a le raisonnement de bon sens. Bon. Un système artificiel, en fait ici nous parlons des systèmes artificiels intelligents. On dit intelligence artificielle, mais c'est un domaine qui consiste à modéliser et à réaliser des systèmes artificiels intelligents. Bon, un système artificiel monté par un être humain, comment il devient intelligent? Eh bien, c'est l'être humain qui met de l'intelligence là-dedans, comme Dieu avait soufflé sur l'homme pour qu'il soit animé. C'est l'être humain qui, par un logiciel développé, il met ça dans le système artificiel pour que le système artificiel puisse exécuter les tâches pour lesquelles on l'a créé. Et pour ce qui est du raisonnement, ben, le système, il raisonne avec ce qu'on lui a donné comme bagage. Là, dans une parenthèse, c'est le niveau d'intelligence de ces systèmes artificiels. De la même manière qu'il y a le quotient intellectuel hein, pour nous les humains. Alors, le système, il va raisonner tel qu'on le lui a dit, mais il peut également y avoir des dérapages. Ça signifie qu'en informatique, nous parlons des bugs. Dès qu'il y a un bug quelque part, bon, le système va exécuter. Il peut exécuter le contraire de ce qu'on lui a demandé de faire d'ailleurs. Donc là, il n'y a pas un raisonnement de bon sens. L'être humain, quand il fait un travail, il réfléchit, il voit que bon, il n'est pas sur la bonne voie. Eh bien, il peut corriger ce qu'il est en train de faire. Mais une machine, c'est un robot, exécute exactement ce qu'on lui a demandé de faire sans trop réfléchir. Il y a le point de vue également de l'éthique et de la privacy, donc la vie privée, avec l'intelligence artificielle. Si on y prête attention, les machines vont faire ce qu'elles veulent hein, et donc on est confronté à l'éthique et à la vie privée. Et il y a les infrastructures également pour ceux qui sont intéressés, surtout chez nous en Afrique, mais au Congo. Un effort doit être fait pour que les infrastructures soient... à jour pour que ceux qui sont intéressés puissent se lancer ou continuer à travailler dans ce domaine.
Voilà, merci beaucoup professeur Simo. Nous rappelons que c'est l'émission Leader et Manager, nous parlons de l'intelligence artificielle, défis et opportunités avec professeur Simo Kidiamboko. Contactez-nous à notre numéro, nous avons quelques minutes seulement pour cette partie interactive, 081-99-66-098, 081-99-66-098. Radis.
Travaillons, nous gagnerons tout ce monde sans un justice du temps en son. Nous bâtirons la vie sans préjudice. Travaillons, nous gagnerons tout ce monde sans injustice. Luttons ensemble, nous bâtirons la vie sans préjudice à celui qui déploie l'effort, donnant un juste revenu. Revendiquer, ce n'est pas un tort. Lorsque l'homme s'est bien tenu, le travail nous libérera, la justice se brisera. Le travail nous libérera, la justice se brisera. Travaillons, nous gagnerons tout ce monde sans injustice. Luttons ensemble, nous bâtirons la vie.
Voilà, nous poursuivons cette émission. Leader et manager, appelez-nous à ce numéro 081, écrivez-nous 081 99 66 098, 081 99 66 098. C'est notre numéro SMS, WhatsApp. À partir de ces numéros, nous allons vous donner la parole. On prend ces messages, c'est les messages d'Eric, monsieur Eric. Bonjour professeur, pourquoi l'IA est-elle considérée à la fois comme une opportunité et un risque?
Bien, Eric, merci pour la question. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Après le petit rappel historique de l'IA, j'ai commencé par présenter les opportunités, c'est-à-dire qu'est-ce que l'IA permet. Et puis après, j'ai donné quelques défis. Alors, je disais, par rapport au rappel historique, c'est que l'être humain n'aime pas dépenser trop de son énergie. Et donc, l'être humain cherche toujours des mécanismes pour se faire aider. Et depuis Genèse jusqu'à ce jour, l'être humain a développé des systèmes pour lui faciliter la tâche. Et à ce jour, nous parlons des robots. Les robots qui exécutent les tâches qui étaient exécutées autrefois par des êtres humains, on va dans les recherches sous-marines par exemple, ce sont les plongeurs qui avaient à l'époque, aujourd'hui ce sont des engins intelligents, des systèmes artificiels intelligents qui vont aider à faire l'exploration sous-marine, dans l'exploration aérospatiale séparée, dans l'industrie, en médecine, en agriculture et autres. Donc là, ce sont les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle, surtout de par la vitesse d'exécution des tâches et même d'ailleurs la précision que présente ce système artificiel intelligent. Vous savez, en chirurgie par exemple, pendant que le médecin est en train d'opérer, sa main peut bouger. Et donc, le bistouri peut changer de direction plutôt que d'aller. Mais avec les systèmes artificiels intelligents, et, un robot, bah, il est là, c'est mécanique, il est fixe, et quand il opère, ben, c'est droit. C'est droit. Et en agriculture, j'en ai parlé, l'agriculture intelligente, là où l'être humain peut avoir. Utiliser bon, le bon sens, c'est vrai, mais ben, écoutez, c'est un être humain, il n'est pas parfait, et donc il peut y avoir un tout petit peu de ratés, mais avec les systèmes artificiels intelligents, il y a un peu plus de précision. Alors, j'ai également parlé de quelques défis. Les défis, j'ai parlé d'abord de l'acceptation de la technologie. Il faut que dans le management des projets, vous pouvez monter un projet pour une communauté. Mais si la communauté n'accepte pas le projet, rassurez-vous que le projet ne fonctionnera pas, quel que soit l'argent qu'on met là-dedans. Donc l'acceptation de la technologie par la communauté, ça c'est très important. Et puis j'ai parlé de l'éthique, le bon sens, la vie privée. Avec l'intelligence artificielle, il y a des gens qui se plaignent aujourd'hui. Ah, on a mis ma photo là-bas, mais en tout cas, ce n'était pas moi, je n'ai jamais été dans ces milieux-là. Bon, il y a des logiciels, des algorithmes d'IA qui permettent à ce jour de copier le phénotype de quelqu'un et même sa voix. On vous fait parler dans un milieu où vous n'avez jamais été. Donc, vous comprenez que ça fait partie de l'éthique et de la vie privée des personnes. J'ai parlé du raisonnement en tenant compte du bon sens. L'être humain, bon, quand il parle, bon, il réfléchit, quand il sent que là, il commet une erreur, et bien, tout il se ressaisit, puis il corrige. C'est ça le bon sens. Mais une machine, bon, elle répète ce qu'on lui a demandé de faire. Et donc... Bien sûr que les recherches sont en cours pour perfectionner. Et effectivement, en tant que scientifique connaissant la persévérance des êtres humains, surtout quand les moyens sont mis en jeu, ils sont capables de beaucoup de choses. Et ils sont en train de le faire, ils le font. Et donc, je pense que même le côté bon sens, on pourra l'avoir aujourd'hui pour répondre à la question de 1956, est-ce que ces machines peuvent commencer à penser et raisonner comme des êtres humains? Bon, les tests ont démontré que les machines peuvent battre sur le plan de la vitesse. Ont battu en 1997 avec Deep Blue de IBM, et en 2016 avec AlphaGo de Google. Et puis, bon, la vitesse de calcul, ça, ce n'est vraiment pas à douter. Il y en a, mais maintenant, c'est l'encadrement. L'encadrement, j'avais suivi une vidéo d'un chercheur en IA qui a monté un chien et a placé dedans un chien artificiel, placé dedans un programme. Le chien devait aller prendre pour lui une canette à la cantine et puis lui ramener. La première fois, ça marchait. Le chien est parti, il a pris la canette qu'il lui a amenée. Et puis la deuxième fois, quand le chien repart, il prend la canette. Quand il vient, quand le monsieur veut récupérer la canette, le chien refuse. Alors maintenant, c'est une bataille entre lui et le chien. Donc vous comprenez qu'il y a eu un raté en ce moment-là. Il y a eu certainement un bug dans le programme. Mais des choses comme ça peuvent arriver.
Très bien.
Ouais.
Écoutons un auditeur depuis Bandundu-Ville.
La RM, bonjour. Est-ce que notre pays, qui a d'abord un problème de chômage, peut encore accueillir l'intelligence artificielle, papa? Quand on va placer des ordinateurs, des robots par-ci, par-là, pendant que nous-mêmes, d'abord, les humains, n'avons pas assez de place. Et c'est possible. Qu'est-ce que vous pouvez suggérer à ceux qui conduisent les pays? Votre auditeur, Patti, depuis Bandundu-Ville.
Voilà, Patti, depuis Bandundu-Ville.
Oui, bonjour, Patti. Merveux à vous également et à toute votre famille et communauté, les communautés auxquelles vous appartenez. L'intelligence artificielle, comme nous l'avons dit dans la partie historique, c'est le résultat de la recherche de l'être humain pour se faire accompagner par des machines. Se faire accompagner par des machines pour lui éviter de dépenser trop d'énergie dans ce qu'il doit faire ou répondre à ce que Dieu avait dit, désormais tu manges à la sueur de ton front. Mais l'homme n'aimant pas dépenser trop d'énergie, trouve des mécanismes pour se faire accompagner, faire exécuter certaines tâches par ces machines-là. Dans toute chose, toute recherche, il y a toujours des débordements ou des excès. Alors, l'IA, en gros, c'est deux tendances. Il y a une tendance IA qui s'occupe exclusivement de la partie des machines qui accompagne effectivement l'être humain, une dame dans une maison qui dans ses travaux de ménage. Aujourd'hui, on a des robots aspirateurs. Là où la maman travaillait, bon, le robot aspirateur est là, il travaille, et puis elle fait autre chose. La lingerie, c'est pareil. La vaisselle également. Il y a des machines qui peuvent faire ça. Là, vous voyez, nous sommes dans la branche de l'IA faible, comme on dit. IA faible. Donc, des machines qui accompagnent l'être humain. Les robots auxquels vous faites allusion par rapport au chômage, les robots qui sont conçus pour accompagner l'être humain dans des milieux hostiles, ben, vous ne me direz pas que parce qu'autrefois c'était des plongeurs qui allaient des espaces sous-marins récolter les données, aujourd'hui il y a un robot qui va le faire. Ben, vous savez qu'il y avait des accidents autrefois, il suffisait qu'un abondement d'oxygène sur le dos et s'épuise quand les calculs avaient été mal faits. L'être humain reste, il reste là. Mais aujourd'hui, un robot, bon, d'abord, il est équipé de tout ce qu'il faut pour capter les informations pour lesquelles on l'a envoyé. Et donc, même si le robot tombe en panne sous la mer, au moins les informations sont déjà arrivées et puis ce n'est pas un être humain qu'on va pleurer. Bon, bien sûr qu'il y a eu un peu d'argent dedans, on n'aurait pas souhaité le laisser là-bas parce qu'on peut encore les réutiliser. Mais au moins, on a dégagé l'être humain de ce genre d'incident-là. Travailler dans un entrepôt de produits qui dégagent des gaz toxiques, et si on y met un robot, c'est vrai que ceux qui travaillent là-bas, bon, ils se retrouvent... En fait, le problème ici, c'est des stratégies pour arriver à occuper les êtres humains dans des tâches pour lesquels les robots aujourd'hui font le travail. Ces stratégies-là doivent être prises par les entrepreneurs, par, comme vous avez parlé du gouvernement, ben, ce ne sont pas les emplois qui manquent pour occuper ceux qui sont déchargés des tâches pour lesquelles les tâches inconfortables pour l'être humain, j'allais dire. Le chômage, oui, il y a moyen, c'est vrai, ça génère, ça engendre le chômage, mais il y a toujours moyen d'occuper ceux qui sont déchargés de ce genre de tâches-là.
Merci beaucoup. Nous poursuivons et nous allons prendre peut-être la dernière question avant de finir cette émission. 081-99-66-098. On va prendre une question. Bonjour Bob, bonjour professeur. Faut-il limiter ou encadrer le développement de l'IA?
Bien, Bob, ben c'est vraiment une question pertinente. J'ai parlé de l'éthique dans les défis. Alors, quand je répondais à la question de Patti depuis Bandundu, je disais qu'il y a deux tendances en IA. Il y a la tendance IA faible qui peut pour accompagner l'être humain dans les tâches répétitives ou en milieu hostile, ainsi de suite, et, ou accompagner les chercheurs dans leurs travaux. Et il y a des logiciels qui permettent ça pourvu qu'on n'abuse pas leur utilisation pour ne plus réfléchir et atrophier la mémoire, le cerveau. Mais il y a aussi une autre tendance, c'est l'IA forte. L'IA forte, c'est cette IA-là qui voudrait, on en parle, arriver à une espèce de clonage. Ça signifie que, qu'on va retrouver deux espèces d'hommes sur cette planète. Et surtout que les recherches continuent dans le domaine que j'ai survolé, le domaine des réseaux de neurones. Le jour où on arrivera à des modèles des réseaux de neurones parfaits comme l'être humain, en tout cas, ça, c'est pas pour aujourd'hui, ça signifie que déjà, l'être humain, il y a la composante cérébrale et la composante biologique. La composante cérébrale, c'est celle qui permet le raisonnement et c'est ce que nous voyons sur des machines aujourd'hui, quand bien même le raisonnement dépend de ce qu'on a mis dedans comme programme. Mais la tendance, c'est arriver à implémenter également le complément, c'est-à-dire la composante biologique. Alors, si on implémente la composante biologique, les recherches sont en cours, ben, je disais qu'il y aura deux types d'hommes. Et c'est là où l'éthique intervient. Et je sais que ceux qui s'intéressent à l'IA ne se fatiguent pas. L'Union européenne travaille là-dessus, aux États-Unis on travaille là-dessus, la réglementation, pour arriver à limiter non seulement...
Nous nous courons déjà derrière les temps, nous allons finir rapidement.
Oui, limiter non seulement la production des systèmes artificiels intelligents qui peuvent nuire l'humanité, mais également leur usage. Donc là, tranquillisez-vous, elles sont faites, mais nous donnons un conseil également, nous qui utilisons l'IA, que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Parce que même la Bible le dit, la connaissance augmentera, je pense que c'est dans Daniel 12, 4, je n'ai pas beaucoup de précisions, mais la connaissance augmentera, mais il faut être regardant pour ne pas abuser.
Merci beaucoup à vous, professeur Simo Kidiamboko, pour cet éclairage. Merci aussi à nos auditeurs. Nous allons nous arrêter là parce que les programmes vont continuer. Peut-être pour ceux qui désirent communiquer avec vous, si ça ne dérange pas, votre numéro ou les coordonnées pour vous joindre.
Alors, c'est mon numéro de téléphone que j'ai depuis plus de 15 ans. J'ai connu du monde entier. C'est le 081 90 87 938. 081 90 87 938. Ou ceux qui sont à Kinshasa, ils peuvent toujours me voir à l'ISTA Kinshasa. Mon bureau, c'est dans le laboratoire de mécatronique, un laboratoire que j'ai mis au point pour que les étudiants puissent expérimenter les théories qu'ils apprennent en cours dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Merci à vous et merci à tout le monde. L'émission est terminée. Suivez en mode rediffusion cette émission le vendredi à 2h du matin et sur internet ou sur notre site web le www.radiomaria.cd. Cette émission sera podcastée dans les heures qui suivent. Restez nos fidèles. Merci à Radis Moussanda et au revoir.
Leader et manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30.